qu'il faut commencer par dire, je pense, que la Simone Veil dont je vais vous parler n'est pas la femme politique que tout le monde connaît et qui est encore vivante et dont le nom s'écrit avec un V, mais c'est bien la philosophe qui est née en 1909 à Paris et qui est morte à Londres en 1943, dont le nom s'écrit avec un W, et qui donc est effectivement une des grandes philosophes du XXe siècle en France. Pourquoi on a... avec une association qui s'appelle Présence philosophique au Puy, on a monté au Puy justement tout un programme dont vous avez peut-être entendu parler, autour du centenaire de la naissance de Simone Veil. Pourquoi au Puy? Eh bien, parce qu'elle y a enseigné en 1931-1932. Elle était toute jeune encore, c'était son premier poste de professeur de philosophie, et elle a été nommée au lycée de jeunes filles du Puy. Et c'était le premier professeur de philosophie au lycée de jeunes filles, et c'était le premier poste de Simone Veil dans sa carrière professionnelle, qui a été assez chaotique et courte. D'ailleurs, sa vie même a été courte. Donc, après de brillantes études à Paris, pour dire quelques mots de sa vie, elle est née dans une famille juive, mais non pratiquante, non religieuse. Son père était médecin, c'était un penseur rationaliste, sa mère d'origine russe, plutôt musicienne. Et elle avait un frère aîné qui était un véritable génie, puisqu'il est devenu l'un des plus grands mathématiciens français du XXe siècle, André Weil. Et comme vous le savez, vous allez avoir un mathématicien la première fois, mais le génie mathématique est précoce. Et dès son enfance, il était tout à fait exceptionnel, cet André Weil. Et Simone Veil en a conçu un sentiment d'infériorité qu'elle a gardé toute sa vie à l'égard de son frère. Donc, finalement, après ses études, elle a eu comme maître, comme professeur qui l'a beaucoup marqué, le philosophe Émile Chartier, Alain. Après, donc, elle a son premier poste au Puy. Elle hésitait à y venir parce qu'elle voulait déjà aller travailler en usine plutôt que d'enseigner, ce qu'elle fera d'ailleurs en 1934. Et puis, après, en 1932, donc, elle quitte le Puy. Elle reviendra cependant un peu en Haute-Loire. Et je ne sais pas si vous le savez, c'est au Chambon-sur-Lignon qu'elle séjournera. Je crois dans les années, en 1934 ou en 1935, je ne me souviens pas bien, il faut vérifier, au moment où elle est en train d'écrire un livre qui lui tient à cœur, et on dit qu'elle n'est pas sortie de la chambre où elle résidait. Alors, je ne sais pas où elle résidait, au Chambon, il faudrait peut-être regarder ça de plus près, mais elle n'a pas visité, quoi. Mais elle est venue une deuxième fois en Haute-Loire et beaucoup plus proche de nous. Alors, je vais vous parler, maintenant que j'ai présenté un petit peu Simone Veil, de la question du mal. C'est une question évidemment difficile, mais qui a souvent embarrassé la philosophie, il faut bien le dire. La philosophie, elle dit ce qu'on doit faire, elle aime bien dire ce qu'il faut faire. Mais tout le monde veut bien faire. Le problème, c'est de savoir pourquoi on n'y arrive pas. Et si on n'y arrive pas, malgré notre désir de bien faire ou de faire le bien, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui nous en empêche. Alors admettons qu'on appelle ça le mal, et c'est cette question que je vais essayer de traiter à travers Simone Veil pour voir ce qu'elle nous en dit. Le mal qui se manifeste dans la manière dont on pense, mal penser. Se tromper, l'erreur est une figure du mal. La manière dont on agit aussi, mal agir, mal faire. Mais le mal, c'est aussi quelque chose que l'on subit, avoir mal, être malade, etc. On va voir que la question du mal a donc une assez grande ampleur. Je voudrais commencer par vous citer cette phrase, j'en citerai quelques-unes, de Simone Veil. Le mal étant la racine du mystère, la douleur est la racine de la connaissance. Évidemment qu'il y a dans le... On a l'habitude de parler du mystère du mal dans le christianisme. Car évidemment, si Dieu qui est bon a créé le monde et l'homme, comment peut-il permettre les guerres, la souffrance des innocents, la souffrance des enfants? Bref, cette grande question qui fait scandale, on ne peut pas la résoudre comme ça, c'est difficile. Il y a un mystère du mal. Eh bien, Simone Veil pense que la douleur est également... la douleur qui est issue de ce mal est la racine de la connaissance. On va essayer de comprendre pourquoi. Il me faut un petit peu de temps pour le développer et vous l'expliquer. Elle dira quelque part, Simone Veil, que ce qui l'a vraiment séparé de son maître Alain, c'est la question de la douleur. Alain, dans la grande tradition cartésienne de la philosophie française, est un philosophe de la volonté. Quand on veut, on peut. C'est un philosophe donc optimiste, puisque quand on est dans la volonté, dans l'action, dans le projet, il faut évidemment croire qu'on va réussir. Et il n'avait pas de réelle pensée pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malheureux. À l'inverse, Simone Veil n'a fait que de penser à ceux-là, à ceux qui sont exclus, à ceux qui souffrent, à ceux qui vont mal. Évidemment, Alain fait l'apologie du courage, de l'endurance. Ce sont des vertus, certes, mais elles ne suffisent pas à rester sourd à ceux qui gênent, à ceux qui crient, à ceux qui souffrent. L'originalité de Simone Veil est de dire que, si désagréable que cela soit pour la pensée, réfléchir sur le mal est la condition pour accéder à la vérité. Car la vérité se donne à l'homme à travers le mal. Si on oublie de penser le mal, il y a quelque chose qui nous manque de la vérité. Alors, si vous voulez, d'un point de vue académique, professoral, je peux vous présenter le plan que je vais suivre, à moins que le temps me manque. D'abord, je vais faire deux parties. Dans la première partie, je vais parler du mal qu'on fait, et dans la deuxième partie, du mal qu'on subit. Dans la première partie, en parlant du mal qu'on fait, je vais d'abord vous proposer une réflexion morale, la question du mal en morale chez Simone Veil, et dans une deuxième sous-partie, vous présenter une question politique. Le mal, c'est aussi une question politique. Alors, je commencerai par vous donner, pour cette première partie, une citation célèbre et très courte de Simone Veil. Elle deux idoles, le moi et la société. Pour elle, il y a deux idoles, le moi et la société. La source du mal consiste à donner une valeur suprême à des êtres qui ne sont pas Dieu. C'est ça la définition de l'idolâtrie. Idolâtrer des êtres qui ne sont pas Dieu et qui donc ne méritent pas d'être au centre de notre existence. Évidemment, la première idole qui est au centre de notre existence et qui ne mériterait pas d'y être, c'est moi. Et il y a dans tout ego, il y a égocentrisme et égoïsme. Notre représentation du monde, l'idée que ne serait-ce que de l'espace, mais aussi du monde social, est toujours centré sur le moi. Ça consiste à partir du moi. Les jugements que l'on porte sur les choses sont centrées sur le moi. Le mal, le moi s'attribue le pouvoir de décider de ce qu'il en est du réel, au besoin en déniant un certain nombre de faits, parce que le moi ne peut pas les admettre, les accepter. Cette logique du déni que la psychanalyse a bien éclairée, Simone Weil en parle aussi. Simone Weil n'a pas aimé la psychanalyse et elle l'a très mal connue. Évidemment, il y a dans la psychanalyse la pensée la plus profonde de ce que c'est que le mal au XXe siècle, qui nous a donné des points de vue tout à fait décisifs pour comprendre cette question du mal qu'on fait, du mal qu'on se fait, du mal qu'on souffre, etc. Mais donc, je vous dis, il n'y a pas d'influence de la psychanalyse sur Simone Weil. Il n'empêche qu'elle retrouve des choses comme le déni. Par exemple, je vais vous citer cette phrase. Suite à son expérience à la guerre d'Espagne, elle écrit « Les crimes en Espagne se commettaient effectivement et pourtant ressemblaient à de simples vantardises. » Elle en parle par ailleurs. Elle s'était engagée dans le camp des Républicains. Évidemment, elle ne pouvait pas reprocher à son camp de commettre des meurtres. C'est le principe même de la guerre. Mais ce qui l'a beaucoup étonnée et choquée, c'est ceux qui revenaient du combat et qui avaient tué peut-être une personne ou deux personnes. Ils n'avaient pas le sentiment de la gravité tout à fait exceptionnelle de ce qu'ils avaient fait. Ils s'en vantaient. Et peut-être y a-t-il besoin de tuer quelquefois dans certaines circonstances extrêmes comme la guerre, mais au moins qu'on ne s'en vante pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire s'en vanter? Ça veut dire qu'ils s'en servaient pour grossir leur moi, pour se donner de l'importance. Et donc là, ils étaient incapables de voir la gravité de ce qu'ils avaient fait. Ils déniaient l'horreur du crime sous prétexte que c'était la guerre. Et ça, c'est un véritable déni de l'acte qu'on vient de commettre. On refuse d'en comprendre la véritable nature. Quand on fait mal, on ne veut pas reconnaître le mal qu'on a fait. On commence par dire « Oh mais non, c'était pas si mal que ça, c'est même ce qu'on me demandait ». Effectivement, en cas de guerre. Et Simone Weil, peut-être une autre citation, qui va dans le même sens, où elle dit « Même accompli, le mal garde ce caractère d'irréalité. » Voilà. On n'arrive pas à concevoir la réalité du mal que l'on a fait. Ça relève donc de ce déni. Mais le moi se défend aussi contre un sentiment de vide et de misère qui l'habite. Le moi éprouve souvent une certaine forme de détresse parce qu'il sait bien qu'il est mortel, par exemple, ou qu'il est faible, ou qu'il est fragile. Cette détresse, pour ne pas ouvrir sur un désespoir, eh bien, on a tendance à la dénier, à remplir ce vide qui est le propre de ma condition. Aimer la vérité, dit Simone Weil, signifie supporter le vide et par suite accepter la mort. Eh bien, cette difficulté qu'a l'homme d'accepter sa propre misère et sa propre mort, comme l'a très bien vu Pascal, eh bien, oblige le moi à se gonfler, à se donner de l'importance. Pour que je puisse me prouver à moi-même que j'existe bien, et du coup, il amène le moi à se mentir, à se donner plus d'importance qu'il n'en a. Et ça, c'est le rôle de l'imagination, dont elle fait, Simone Weil, une critique tout à fait sévère, car l'imagination travaille à construire une image valorisée de moi-même. Peut-être que c'est ce que les psychanalystes appellent l'idéal du moi. On a tellement besoin de se construire un moi idéal qu'on en oublie de voir le moi tel qu'il est. On en oublie de voir comment on est. Et pour être à la hauteur de cet idéal du moi, l'homme n'hésite pas à dénier les conséquences de ses actes lorsqu'il agit mal. Elle écrit « L'imagination travaille continuellement à boucher toutes les fissures et donc à construire un moi plein, un moi solide, un moi qui n'aurait pas à reconnaître, qui n'aurait à reconnaître aucune faute. La première expérience de la faute, c'est l'expérience de la dénégation. Non, ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ou bien, non, mais ça n'est pas une faute, j'ai bien fait. Voilà, on se justifie ou on dénie ce que l'on a fait. Ce qui nous empêche évidemment de prendre conscience du mal qu'on fait. Et donc, ce qui nous amène à le faire abondamment, de manière répétitive, systématique. Simone Weil pense que, je la cite encore, « l'homme ne peut pas se prendre pour but lui-même. » À partir du moment où le « moi » insiste dans l'existence, où la personne humaine veut exister en tant que « moi » et qu'elle se met au centre du tout, eh bien, elle produit la première forme d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'elle donne l'importance la plus haute à son propre moi au lieu de centrer sa représentation du monde sur Dieu, qui doit être le centre. Et par rapport à quoi la perfection de Dieu, par rapport à quoi je vais pouvoir prendre moi-même une juste idée de peut-être un peu de ma valeur, mais aussi de mes faiblesses, de mes manques et de mes fautes. La deuxième idole, dit-elle, c'est le groupe social. Car on voit beaucoup de personnes qui veulent effectivement se dépasser eux-mêmes. Mais alors, par un mécanisme de solidarité, ils en viennent à s'identifier au groupe auquel ils appartiennent. Je dirais plus « moi » est au centre du monde, mais je dirais par exemple « ma famille est au centre du monde ». C'est ce qui existe le plus pour moi. Ou bien je dirais « mon village, ma communauté, mon parti politique » ou mon groupe de supporters, ou tout simplement mon peuple, la France. Alors là, le moi, effectivement, s'est dépassé, mais c'est sans valeur parce qu'il s'est dépassé pour idolâtrer, il laisse la première idole pour tomber sous la coupe d'une deuxième idole qui est le groupe, qui, quelle que soit sa forme. Toute société tend à se poser comme centre du monde et gardien et gardienne des plus hautes valeurs. C'est le phénomène, cette fois, plus de l'égocentrisme, mais de l'ethnocentrisme, qui a donné qui a produit le colonialisme, qui, pour Simone Veil, j'y reviendrai tout à l'heure, est une figure du mal en politique. Alors, pourquoi cette tendance à idolâtrer? Eh bien, c'est en raison de la structure même de notre désir, de nos désirs, comme dit Simone Veil. En effet, dans tout désir, il y a l'énergie qui me porte vers la chose que je désire, vers l'objet, et puis il y a l'objet lui-même de ce désir. Et Simone Veil pense que l'on devrait, je la cite, « descendre à la source des désirs pour arracher l'énergie à son objet ». Contrairement à ce qu'on dit quelquefois, Simone Veil n'a pas une morale complètement ascétique, parce que l'ascétisme, c'est vouloir tuer le désir en l'homme. Mais elle est beaucoup trop platonicienne pour adopter ce point de vue de l'ascétisme. Elle pense en effet que le désir est bon, mais il est bon comme énergie, et il est en général très mauvais lorsqu'il se porte sur un objet. Le défaut du désir, c'est de se donner un objet de désir. C'est la source de toute idolâtrie. À partir du moment où je désire quelque chose, je vais forcément survaloriser cette chose que je désire. Donc, il faudrait désirer, mais sans savoir quoi. Laisser notre désir ouvert, privé d'objet, une sorte de désir d'absolu, mais sans pouvoir donner à l'absolu aucun visage, aucune réalité. L'absolu ne doit pas être de l'ordre du réel, de la réalité. Et donc, à partir du moment où c'est la structure même du désir que de porter une énergie qui est bonne sur un objet qui n'a jamais assez de valeur s'il est réel, c'est à partir de ce moment-là que naissent les idolâtries. Et à partir du moment où on a posé une réalité comme ayant une valeur centrale, eh bien, on va pouvoir se permettre, pour sauver cette réalité, de faire porter la souffrance sur ce qui n'est pas elle. Je veux dire par là que, à partir du moment où je pense que le moi, c'est ce qui a le plus de valeur, si je souffre, je vais vouloir faire porter ma souffrance plutôt sur l'autre pour préserver le moi de sa souffrance. De même, si je pense que la France doit être au centre de toutes mes préoccupations, plutôt que de subir, plutôt que d'accepter que mon pays subisse la souffrance, je préférerais évidemment faire porter la souffrance sur un autre pays et donc, au besoin, en l'agressant. C'est le cas des guerres. Donc, la méchanceté, c'est, nous explique-t-elle, le besoin de décharger une souffrance interne en la faisant porter sur l'extérieur. Le mal me donne du coup l'illusion d'exister plus parce que je ne suis plus coupé de moi-même par la souffrance ou amoindri par ma propre souffrance. Et ce désir d'exister et d'aller mieux que nous portons tous en nous nous amène quelquefois à être agressifs parce que l'agressivité, ça consiste à sortir cette souffrance qui est en nous pour la faire porter sur l'autre. Et Simone Weil fait remarquer que dans ce cas de figure que je viens de décrire, j'ai vraiment l'illusion de bien faire. Parce que qu'est-ce que je veux ? Je veux aller mieux, je veux aller bien. Donc c'est bien le bien que je cherche. Ou je veux que ma famille aille mieux. Et donc c'est le bien, là encore, que je cherche. Par exemple, ce n'est pas un exemple qui est dans Simone Weil, je l'improvise un petit peu comme cela. Imaginons que un propriétaire qui ne perçoit plus les loyers que lui doit son locataire. Et ce propriétaire, eh bien, ses loyers lui manquent parce que, par exemple, il a des frais pour la scolarité de son enfant. Donc, il va exproprier son locataire qui ne peut plus payer. En plus, c'est normal, la loi le lui permet. Il a vraiment l'impression de bien agir, et non seulement pour lui, mais après tout, il agit aussi pour ses enfants. Il a l'impression d'être complètement dans le bien. Seulement, ce locataire qui se retrouve à la rue, par exemple, va décéder ou tomber malade au premier froid parce qu'il est dans la rue. Et alors, est-ce que cette expulsion, ça n'est pas une mauvaise action ? Eh bien, pour le propriétaire, ça n'est pas une mauvaise action. Il a vraiment eu l'impression de bien agir. Et pourtant, quand on cherche la source de cette mort, d'où vient le mal ? Eh bien, c'est que ce locataire ne pouvait plus payer son loyer et qu'on l'a mis dehors. Donc, vous voyez que ce qui peut paraître bien pour moi peut faire mal à l'autre. Et ce qui veut dire qu'on ne fait jamais le mal pour faire le mal, mais qu'on fait le mal parce qu'on imagine qu'il est le bien. Et donc, tout mal se présente comme le simulacre d'un bien. Le simulacre, c'est une chose, c'est un concept qui vient de Platon, que a beaucoup utilisé Platon, c'est-à-dire que c'est une chose qui ressemble à une autre, mais qui en est le contraire. Je vais le développer tout à l'heure au niveau politique. Ce qui est le contraire du bien, ce n'est pas l'action perverse de celui qui veut vraiment faire mal pour faire mal. Ça, tout le monde voit qu'il est dans le mal, lui. Bon, c'est d'ailleurs assez rare. Ce qui est le contraire de la bonne action, c'est l'action qui veut être bonne, mais qui ne comprend pas, parce qu'il ne comprend pas qu'elle est mauvaise parce qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la bonne action. C'est tout le problème des bonnes intentions en général dans la vie. Encore une fois, comme je le disais en commençant, nous voulons tous bien agir et nous avons tous de bonnes intentions. Et alors pourquoi il y a le mal entre nous, parmi nous ? Pourquoi ça tourne mal souvent ? Eh bien, c'est parce que nous ne savons pas vraiment discerner le bien de ce qui ressemble au bien, mais qui n'en a que l'apparence, qui en fait est un simulacre de bien. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Au-delà de la bonne volonté, le philosophe Kant, par exemple, pensait que c'est au niveau de la bonne volonté que tout se jouait. Il suffisait d'avoir de la bonne volonté, mais la bonne volonté, ça ne suffit pas. Au-delà de la bonne volonté, il faut être capable de discerner le bien de ce qui n'en est que le simulacre. Un autre exemple que peut prendre, je m'attarde un peu sur les exemples, mais c'est pour être peut-être concret. Je vais passer un petit peu plus vite après sur la question politique. Un autre exemple que prend Simone Weil, je vous le lis. Elle dit « Le mal, c'est la licence. » c'est une forme de liberté très particulière qu'on appelle la licence. Et elle parle de la monotonie du mal. C'est à cause de cette monotonie que la quantité joue un si grand rôle. Beaucoup de femmes, dont Juan, ou beaucoup d'hommes, c'est l'hymen. C'est le style de son, de ses cahiers. C'est-à-dire qu'elle note. C'est très difficile à lire, pas parce que l'idée est difficile à comprendre, mais parce qu'elle était tellement pressée qu'elle ne fait même pas des phrases, vous voyez. Ce passage, je vous en fais le commentaire rapide. Elle voit, dans le mal, c'est quand on déchoit, quand notre désir de bien faire prend une forme quantitative. C'est la différence, si vous voulez, entre la croissance et l'accroissement. La croissance, ça consiste en un progrès spirituel de type qualitatif. Alors que l'accroissement, ça y ressemble beaucoup. D'ailleurs, les deux mots, on en emploie l'un pour l'autre. On essaye de progresser, là aussi, dans l'accroissement. Mais comment ? De manière quantitative. Elle prend l'exemple amoureux. Nous savons tous que l'une des choses que nous avons à apprendre dans la vie, c'est à apprendre à mieux aimer, à apprendre à aimer et à mieux aimer. Mais on tombe au niveau du mal, elle parle de Célimène, de Don Juan, quand on pense que mieux aimer, c'est aimer plus d'hommes ou c'est aimer plus de femmes. Le Don Juan, c'est celui qui tombe dans le quantitatif et qui croit qu'il va pouvoir, apprendre en accumulant. Mais on passe à ce moment-là de la croissance à l'accroissement. On y passe de manière relativement subtile souvent. On croit qu'on va être mieux parce qu'on aura plus. Ça, dans toutes les vies, je pense qu'à un moment, on a à se poser cette question. On accumule. Et on pense que c'est réussir sa vie d'accumuler. Ou alors, est-ce que réussir sa vie, ce serait de perfectionner son être? Et alors là, on est dans la croissance. On tombe, sans y faire attention, dans ce qu'elle appelle donc la monotonie du mal. Parce qu'à partir du moment où on est dans le quantitatif, ça devient monotone. C'est-à-dire que chaque chose garde son imperfection, sauf qu'on a plus de choses. Mais on reste au niveau de la même imperfection. Donc ça, c'est du point de vue de la réflexion morale. J'ai un petit problème tout simple, c'est que j'ai éteint mon portable, effectivement, mais c'était le seul endroit où j'avais l'heure. Est-ce que vous pourriez me prêter votre montre, que je vois où j'en suis au niveau du temps, pour ne pas parler trop longtemps? Oui, d'accord. Alors, en politique, la question du mal va prendre la forme de quelle différence peut-on faire entre l'inspiration qui porte les grandes politiques et le fanatisme qui ressemble beaucoup à l'inspiration. La question de l'inspiration en politique est délicate. Simone Veil pense qu'on ne peut pas se passer d'une certaine inspiration pour... C'est ce qui donne à un peuple ce que Nietzsche appelle sa grande politique, sa politique à long terme, la politique que sont capables d'avoir les visionnaires. Seulement, il y a deux figures du mal dans la politique du XXe siècle, deux figures majeures. C'est les fascismes et le communisme. Or, surtout le fascisme, pensait être dans ce qu'on pourrait appeler une grande politique, vouloir faire la grande Allemagne, ou vouloir rendre toute sa dignité antique à l'Italie. Ça ressemblait à une inspiration. Et d'ailleurs, les chefs avaient ce charisme qui pouvaient faire croire qu'ils étaient habités par quelque chose de plus qu'eux-mêmes, quoi, un grand élan, un enthousiasme, qui pouvaient faire croire qu'ils étaient véritablement des guides. Or, en réalité, ce n'était que de la propagande. Ça n'était que de la simulation. Et l'enthousiasme des peuples était suscité par des techniques de propagande, par des techniques de communication. Ça n'était pas le vrai élan, c'est un de ces élans qui soulève quelquefois les peuples, qui cherchent par exemple à se libérer du colonisateur. Mais c'était une forme de propagande. Si bien que de même qu'on peut faire une différence entre la croissance et l'accroissement, on peut faire une différence entre l'inspiration et le conditionnement politique. L'inspiration consiste à éveiller chez les gens les raisons qui se trouvent en eux et qui peuvent les pousser à agir. L'inspiration laisse libre et même éveille à la liberté les citoyens, parce qu'elle éveille chaque citoyen à sa propre vie intérieure. Il n'obéit plus lorsqu'il est porté par cet élan. Il n'obéit pas à quelque chose d'extérieur, en tout cas. Il obéit à un sentiment qui est véritablement né en lui, on pourrait dire en sa conscience. À l'inverse, la propagande coupe la personne de sa vie intérieure. Elle l'étourdit en réalité, jusqu'à créer en elle une sorte d'ivresse, une ivresse artificielle qui va la conduire à faire ce qu'elle n'aurait pas voulu faire en son état normal. Et ça, encore une fois, Freud a très bien expliqué comment, pris dans une foule, l'individu se permet de faire des choses qu'il n'aurait jamais faites seul. Mais que là, on est vraiment de l'ordre, non pas dans la véritable inspiration collective, mais on est dans un phénomène de groupe qui relève de la psychologie de groupe et qui est l'ivresse d'être ensemble et qui nous amène à faire des bêtises, bien souvent, parce qu'on se sent plus fort et qu'on se sent autorisé à faire tout et n'importe quoi quand on est ensemble, pour le dire vite. Et donc, vous voyez comment en politique, je veux avancer, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce point, comment en politique, eh bien, la différence entre l'inspiration et la propagande n'est pas facile à faire. Et pourtant, elle est importante, car c'est ce qui fait la différence entre un nationalisme entretenu, belliqueux, entretenu par un régime qui en a besoin à un moment donné pour exister en tant que régime. Ça, c'est une forme de nationalisme qui est une figure du mal, évidemment. Ça produit des catastrophes. Et puis, une vraie idée nationale. Simone Veil ne veut pas qu'on renonce à l'idée nationale. Elle est, en ce sens, pour la nation. Mais ce sentiment d'appartenir à une nation et que cette nation fait notre identité profonde, ce sentiment en lui-même, il n'est pas suscité par une propagande extérieure, ou il n'est pas suscité par une campagne de presse, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, gouvernée par campagne de presse, comme ça s'est fait ces dernières décennies. On lance comme ça des thèmes et on fait toute une campagne de pub à la télé ou ailleurs. Ça n'est pas un bon moyen de gouvernement. Et ce n'est pas avec des campagnes de presse qu'on éduque les citoyens à penser ce qu'ils ne penseraient bien que s'ils le pensaient par eux-mêmes. Cette manière de concevoir soi-même qu'on appartient effectivement à une identité nationale et que la nation a une certaine valeur pour nous, parce qu'elle est une communauté de valeurs, il ne faut pas y renoncer sous prétexte qu'on est contre le nationalisme. Vous voyez, ça a été une des grandes dérives de l'Europe après-guerre. Le nationalisme avait fait tellement de mal qu'on, le nationalisme allemand, mais il avait fait aussi du mal, évidemment, dans la Première Guerre mondiale, qu'on a voulu éradiquer tout ce qui ressemblait au nationalisme, y compris l'idée de nation. Eh bien, à ce moment-là, avec le remède, non seulement supprime le mal, mais il supprime aussi la santé dans la vie d'un peuple. Vous voyez, il y a des, on ne peut pas adopter un remède qui nuise autant à la maladie qu'à la santé. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il est difficile, il faut entrer à chaque fois dans une analyse assez fine, il est difficile de faire la différence entre ceux qui se ressemblent et qui ne se séparent que par d'infimes nuances. Et donc, apprendre à penser les nuances, c'est ça le véritable remède. Parce que ça nous paraît, quand on y réfléchit, n'être que des nuances, mais les conséquences sont très grandes entre une chose, les conséquences d'une bonne chose et les conséquences d'une mauvaise chose qui lui ressemble ne sont pas du tout les mêmes conséquences. Alors, pour avancer, je passe à une deuxième partie, donc où on va parler maintenant du mal qu'on subit. Donc, Simone Veil s'est beaucoup. Elle a essayé de prendre le problème du mal par un autre bout. La perspicacité de Simone Veil est d'avoir su décrire ce que c'est que d'avoir mal, cette dynamique interne du malheur, alors que le plus souvent, on ne voit pas la relation entre les différentes manifestations du malheur. Un peu à la manière d'une théorie scientifique qui ramène un grand nombre de phénomènes à une seule et même force agissante, la pensée de Simone Veil, quand elle réfléchit sur le malheur, articule assez bien une pensée du politique comme étant essentiellement oppression sociale et l'intérêt qu'elle a pour les différentes sortes de malheureux. Le travail épuisant, par exemple, qu'elle a connu et dont elle a voulu faire l'épreuve en usine ou au champ, on parlait de Gustave Thibon tout à l'heure quand elle est allée vendanger chez les Thibon. Ce travail épuisant est essentiellement un malheur qui vient frapper l'existence quand on est obligé de faire un travail comme ça pour survivre et qui vient empêcher l'existence de se déployer. On n'arrive plus à exister pleinement quand on est obligé de travailler dans de telles conditions de travail. À cette forme-là de travail s'applique fort bien une formule par laquelle Simone Veil entend décrire toutes les formes de malheur et qui est la suivante, une pulvérisation de l'âme par la brutalité mécanique des circonstances, écrit Simone Veil. C'est ça le malheur, c'est une pulvérisation de l'âme. Notre âme ne peut plus garder son intégrité. Nous sommes cassés à l'intérieur dans l'unité de notre être, une pulvérisation de l'âme par la brutalité mécanique des circonstances. Mais quel que soit le coup qui nous frappe, le coup du destin qui nous frappe, la maladie, l'accident, le deuil, la catastrophe politique, il y a quelque chose de commun à tous les malheurs. Et c'est ça qu'elle essaye de penser, Simone Veil. Il se caractérise, tous ces malheurs, d'abord par une fermeture au monde. Celui qui en est frappé n'est plus ouvert au monde. Il ne s'intéresse plus au monde. Le monde est là, certes, il a gardé la même beauté, celle qu'on était capable jadis de voir et d'admirer, mais on est fermé, on ne peut plus la voir, cette beauté. Et même Dieu, dit-elle, on ne peut plus l'aimer. lorsque auparavant on l'avait aimé. Une sorte d'horreur submerge toute l'âme, dit-elle. Pendant cette absence, il n'y a rien à aimer. Voilà, ce que le malheur détruit, c'est notre capacité d'aimer. Les autres non plus ne peuvent plus être aimés. Et même les bienfaiteurs, ça on le voit souvent en Europe, ceux qui travaillent dans le social savent bien qu'on veut faire du bien à quelqu'un, on veut l'aider, et puis ils nous envoient promener, et même, eh bien oui, le malheureux ne peut même pas reconnaître, ne peut même pas avoir de la reconnaissance pour son bienfaiteur, parce qu'il est trop dans sa propre souffrance. Et le malheur va également de pair avec une répulsion à l'égard de soi-même. On ne se supporte plus. Quand on est très malheureux, on ne se supporte plus. Sortir du malheur, une fois qu'on y a été plongé, et c'est un problème finalement difficile et qui, pour Simone Veil, est d'ordre spirituel. Derrière tout ça, il y a le problème du salut. D'abord, il faut dire qu'on ne sort pas du malheur quand quelqu'un a vraiment mal. On ne va pas aller le consoler. On sait bien que ça sert à rien, la consolation. On ne va pas non plus faire appel à sa raison en disant « Allons, réfléchis, tu vois bien que… » Ben non, parce que… il faut n'avoir jamais été malheureux soi-même pour croire que c'est la raison qui va nous guérir de notre malheur ou de notre souffrance. C'est pas au niveau de la raison que ça se joue. C'est plus profond dans l'existence. Et du coup, le malheureux s'enferme dans son propre malheur et ce qui ne fait que rajouter à son malheur, car les autres finissent par se détourner de lui, par le laisser tomber et par le mépriser. Simone Veil écrit « Tout le monde méprise plus ou moins les malheureux. » Il y a une sorte de dégoût. Comment un homme peut tomber si bas? Vous voyez un ivrogne, vous avez forcément un sentiment de dégoût. Mais enfin, comment peut-on vivre comme ça? Et on ne va pas à chaque fois se demander « Mais pourquoi en est-il arrivé là? Quels sont les malheurs de l'existence qui l'ont poussé à cette forme de déchéance ?» La réaction première, c'est une réaction de répulsion. Ailleurs, elle écrit « Un malheur trop grand met un être humain au-dessous de la pitié, dégoût, horreur et mépris. Ce rejet du malheureux contribue à enfermer le malheureux dans son malheur. » D'autant plus qu'il y a dans le malheur quelque chose qui exige de perdurer. Le malheureux fait de son malheur et de sa souffrance une sorte d'identité. Et il tient finalement à rester dans cette souffrance pour être lui-même. Là encore, la psychanalyse a dit des choses très décisives sur ce point, mais Simone Veil l'a remarqué par une toute autre voie. Elle écrit « En quiconque qui a été malheureux assez longtemps, il y a une complicité à l'égard de son propre malheur », dit-elle. Le malheureux, je vous parle bien du mal en parlant du malheureux, n'est-ce pas, hein, le malheureux est enfermé comme dans une prison intérieure. Il contient une sorte de ce que Simone Veil appelle un poison d'inertie. Et ça correspond à peu près à ce que Freud, par exemple, appellerait les bénéfices secondaires d'une maladie. Un poison d'inertie, si bien qu'il est dans sa nature de faire obstacle à ce qui pourrait réduire son malheur. On tient à sa souffrance, on veut la garder. La consolation n'a pas de prise sur le malheureux. Pourtant, de même, Simone Veil, j'en parlais hier avec le conférencier qui est venu au Puy, n'a pas beaucoup parlé de Kierkegaard. C'est dommage, peut-être ne l'avait-elle pas beaucoup lu. Kierkegaard a montré dans sa réflexion sur le désespoir que pour sortir du désespoir, la première chose, c'est de le reconnaître. Eh bien, Simone Veil, de manière similaire, montre que pour permettre de sortir de son malheur, il faut d'abord l'approfondir, aller jusqu'au bout de sa déchéance. Et ce n'est qu'au fond du trou, comme on dit habituellement, que quelque chose peut apparaître qui ressemble à un autre regard sur la vie, c'est-à-dire laisser, enfin, comprendre qu'on est tellement anéanti qu'on ne peut plus penser le monde à partir de soi. Et se laisser, comme elle dit dans son langage, décréer par son propre malheur. Lorsque Simone Veil noue une correspondance avec un réfugié espagnol qui se trouve au camp du Vernet et qui a tout perdu, alors Simone Veil a entendu parler de ce réfugié en quittant l'Espagne, donc il a tout perdu, il n'a plus de famille, il n'a plus de... Et elle a l'idée qu'elle va lui écrire. Alors sa première lettre, très amusante, « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu parler de vous, etc. » c'est elle qui prend l'initiative de lui écrire. Après, comme elle en avait l'habitude, elle lui envoie évidemment un peu d'argent, un peu des colis et tout ça. Puis se noue une correspondance, il s'appelle Antonio Atares, ce réfugié espagnol. Et ce qu'elle lui dit, c'est que vous qui êtes vraiment au fond du malheur, elle dit, toi qui es vraiment dans le malheur, dans la déchéance, tu as tout perdu. Et elle lui dit, moi aussi, parce qu'elle se sent elle-même du côté des malheureux. Mais il nous reste la beauté des étoiles, il nous reste la beauté de la nature. Comme si quand on avait tout perdu, alors quand on va vraiment au fond, on ne pense plus à soi. Et on retrouve par ce biais une sorte de relation à la beauté et à du monde et à la perfection de la création. C'est-à-dire que la manière de ne plus avoir mal, c'est arriver au point où le mal nous a tout pris. Et ce qui, quelquefois, est difficile avec les malheureux, ou ce qui, pour nous, fait problème quand on est malheureux, ce qui, pour moi, m'embête quand je suis malheureux, c'est que je veux me raccrocher quand même à moi. Et que ça ne fait qu'accroître mon malheur, puisque j'essaye donc d'accuser les autres de tous mes malheurs. Et je reconstruis du moi sur la haine, sur l'accusation de l'autre, sur la rancœur. Il y a plein de rancœur souvent chez les gens malheureux, mais c'est parce qu'ils n'osent pas aller encore assez loin dans leur déchéance, comme on dit, ou dans ce qu'elle appelle leur décréation, n'existait plus comme un moi. Donc, le malheureux, ainsi détruit, décréé à son corps défendant, il n'a pas voulu, mais c'est comme ça, ne peut plus opposer les défenses du moi aux sentiments qui le traversent. Il n'est plus rien, il est un vide, il est anéanti, et en tant que néant, il peut retrouver un accès au monde. Alors évidemment, je vous ai parlé un petit peu de la pensée du malheur chez Simone Veil. Elle va très loin. On va en parler un petit peu sans doute dans la discussion. Je voudrais juste auparavant parler d'une dernière chose qui va venir éclaircir ce que je viens d'expliquer. C'est que elle a mis en évidence, alors, parce que sa question c'est comment sortir du mal que l'on subit. Et elle explique que, comme on l'a dit tout à l'heure, la tendance habituelle, normale, c'est de se décharger de sa propre souffrance sur l'autre. Alors, elle prend l'exemple du supérieur qui peut, par exemple, être en colère et qui va s'en prendre à son inférieur. Par exemple, un parent, il est en colère parce que ça s'est mal passé à son travail. Elle rentre à la maison pour aller mieux. Et c'est bien de vouloir aller mieux. Il va s'en prendre à son enfant. Et l'enfant, alors lui, il va porter ça, ça vient du bureau, c'est passé par son père ou sa mère, et maintenant c'est lui qu'on l'a disputé, et il n'y pouvait rien, le pauvre, il souffre, il pleure, et alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, par exemple, il va s'en prendre à son chat. Et donc, il va faire mal à son chat, alors, il ira un petit peu mieux, après, voilà. Et donc, il y a cette logique qui fait qu'on l'on transfère. Et donc, la question, qu'on transfère la souffrance. Et donc, la question, c'est de savoir comment s'en sortir, comment l'interrompre. Et Simone Veil, évidemment, ne voit qu'une solution, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui accepte de garder la souffrance pour lui-même, de prendre toute sa part de souffrance et même... Si il subit un mal injustement, de garder ce mal sans se retourner sur celui qui l'a causé, ce serait la vengeance, ou sans se retourner sur une victime innocente et faible pour s'en décharger, ce serait la compensation. Et le garder pour soi, c'est évidemment une morale christique. On voit bien que c'est le Christ là derrière qu'il faut imiter. Celui qui prend tous les péchés du monde, victime innocente de toutes les méchancetés, et qui les garde pour lui, avec l'idée que c'est comme ça qu'on va pouvoir libérer l'humanité du mal qu'elle porte en elle. C'est une morale effectivement christique que nous... C'est une solution christique que nous propose Simone Veil. Elle remarque ceci, en se vidant, c'est-à-dire en acceptant de tout encaisser, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire garder, ne plus être atteint par, dans sa, ne plus souffrir d'être détruit en tant que moi, en se vidant, on s'expose à toute la pression de l'univers environnant. Et donc on devient extrêmement vulnérable, mais pour elle, la perfection morale, c'est le contraire de la recherche de la force ou de la puissance. Et donc, c'est dans l'extrême faiblesse de celui qui encaisse tout et qui en souffre que se révèle une autre énergie qui est l'amour qui peut irradier de quelqu'un qui a tellement aimé qu'il a accepté de garder pour lui toutes les souffrances qu'on lui a fait subir. Évidemment, il faut ne plus avoir aucun amour-propre, être tombé dans la plus extrême humilité, accepter l'humiliation, accepter la position de victime, même si l'on est innocent. Elle écrit ceci, on ne peut avoir horreur de faire du mal à autrui, donc on a horreur de faire du mal à autrui, on se retient, que si on est au point où autrui ne peut plus nous faire du mal. C'est-à-dire qu'on est tellement, on a tellement plus de moi, plus d'amour propre, plus rien à défendre de soi-même, qu'on peut encaisser le mal qu'on nous fait, parce qu'on n'en souffre plus d'une certaine manière. Comme si c'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ça a des conséquences évidemment extrêmes. Ça suppose une morale du sacrifice. Et je vous donne pour... ça amène à valoriser évidemment la patience. Ce qui l'intéresse le plus, Simone Veil, dans la vie du Christ, c'est la passion. Pourquoi ? Ben vous entendez bien le mot passion, il y a non seulement le mot douleur, mais le fait qu'on est passif, c'est-à-dire ne plus répondre. La passion du Christ, c'est le fait qu'il accepte ça en tant que Dieu, sa souffrance, alors qu'en tant que Dieu, il aurait pu y échapper, puisqu'il aurait pu faire jouer la puissance. Ce qu'elle reproche au Dieu de l'Ancien Testament, c'est qu'il fait toujours jouer la puissance divine. Peut-être que, bien que Dieu est tout puissant, mais ce qui le fait Dieu, c'est qu'il est capable, encore plus que d'être tout puissant, de renoncer à sa puissance. Et c'est, elle a une conception de Dieu, une conception du christianisme très particulière, enfin, profonde, je crois, assez originale, mais en même temps tout à fait évangélique, hein, qui est que Dieu, c'est celui qui renonce à faire valoir sa puissance. Et pour cela, il faut qu'il ait cette puissance, sans doute, mais qu'il y renonce. Alors, la passion du Christ, c'est cela, c'est choisir la passivité, rester passif et patient. On dit bien que quand on souffre, il faut prendre son mal en patience. Eh bien, cette patience est pour elle la seule manière d'imiter un peu le Christ. Et je finirai sur cette citation, parce que là, on a fait une heure, hein, bien une heure, même un peu plus. Et donc, on va, voilà, il est 4h15. Ça nous laisse 3/4 d'heure, vous voyez, pour discuter, puisqu'on doit sortir d'ici à 17h. Cette citation, « Le faux Dieu, dit-elle, change la souffrance en violence. » C'est le Dieu vengeur, le Dieu qui se venge, l'Ancien Testament. « Le faux Dieu change la souffrance en violence. Le vrai Dieu change la violence contre soi, en souffrance. » Mais ça, c'est le Christ. Changer la violence en souffrance, être Dieu dans la souffrance. Et donc, on comprend pourquoi, pour elle, il n'y a de connaissance, ce que je disais au début, que dans la souffrance ou dans la douleur, parce que on atteint le point de vue de Dieu que si on est dans la souffrance, dans le malheur, dont on sait qu'il produit un état de conscience quand même très différent. Quand on a mal, on ne voit plus le monde de la même manière, on est dans un autre état de conscience. Et bien, cet état de conscience, il est dans la vérité. Il est plus vrai que l'état de conscience qui est le nôtre quand on est dans l'action, la transformation du monde, ou le désir de vengeance, ou après quelque chose qui est de l'ordre de l'action ou de la réaction. Quand on a mal, on réagit souvent. Eh bien, évidemment, les philosophes ont souvent eu l'idée que pour atteindre la vérité, il faudrait prendre le point de vue de Dieu sur le monde. Les grands métaphysiciens du XVIIe siècle, notamment Spinoza, pensent que c'est bien... le but de la philosophie et de la sagesse que d'essayer de voir le monde du point de vue de Dieu. Mais comment concevait-il le point de vue de Dieu? Comme un point de vue de surplomb, capable de comprendre par l'infinité de l'intelligence qu'il y a dans l'intelligence divine, c'est capable de comprendre par l'infinie intelligence qui est celle de Dieu, tout le mécanisme qui fait la nature et l'humanité. Hein? Et pouvoir écrire une théodicée, c'est-à-dire montrer que Dieu est parfait, comme l'a fait Leibniz. Hein? Dieu est parfait, sa création est parfaite, que si on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, des guerres, un enfant qui meurt ici ou autre malheur, eh bien, c'est qu'il fallait ça pour que le monde soit véritablement parfait. Et donc, quand on a le point de vue de Dieu, c'est-à-dire le point de vue de l'ensemble, tout est justifié. Seulement, pour Simone Weil, c'est autre chose, le point de vue de Dieu. Ce n'est pas ce point de vue de l'ensemble. C'est le point de vue du plus souffrant. On arrive au point de vue de Dieu quand on est au fond de la souffrance. Alors, vous voyez quand même, il y a un apport de Simone Weil par rapport à d'autres grands philosophes. Il y a une originalité de la pensée de Simone Veil. Et en même temps, si vous voulez, jusqu'où cette exigence-là peut être suivie. Je voulais, pour entamer la discussion et montrer... Oui, si, il y avait cette citation encore que je peux vous donner. Elle dit « Le mal consiste en action, le bien en non-action. » La non-action, c'est le non-agir des taoïstes, peut-être, mais c'est aussi la passion du Christ. C'est surtout la passion qui, pour elle, est la non-action. La passion ou la patience. Et oui, jusqu'où on peut porter cette morale du sacrifice. Jusqu'où, quelquefois, il n'y a pas une obligation pour le moi à se défendre, non pas pour lui-même, mais pour les autres. Je retrouve plus cette phrase de Merleau-Ponty, où il dit que si l'on n'agit pas contre l'injustice, si on veut la subir soi, d'accord, mais on peut pas aider les autres, on condamne les autres à rester sous le joug de cette même injustice. Est-ce que le non-agir n'est pas, au fond, le refus d'aller secourir ce qu'on pourrait secourir? Vous voyez, ça c'est la limite de ce que pense Simone Veil. D'ailleurs, elle-même n'a pas pu vivre, à mon avis, jusqu'au bout, ce qu'elle pense. Puisque, à un moment, elle n'allait quand même pas demander à ce peuple français qui venait d'être... Qui était sous l'hégémonie allemande, qui était dans le profond sentiment, la déréliction de la défaite, eh ben, de rester passif. Elle a voulu soutenir l'action du général de Gaulle, qui était quand même une action militaire. Donc elle a bien l'idée que parfois il faut faire la guerre. Comme chez tous les grands penseurs, il y a des contradictions. Il y en a chez Simone Veil. Elle n'a pas pu... personnellement, je pense que ce n'est pas tenable jusqu'au bout, cette morale du sacrifice. Mais en même temps, elle nous éclaire énormément. Alors voilà, évidemment, je n'arrive pas à une conclusion unilatérale. Je pense que c'est matière à discussion.
On va pouvoir répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez là dans la salle. Oui, tout de suite, une.
Bonjour et merci beaucoup. Vous avez commencé en disant « faire le bien et bien faire ». Est-ce que vous mettez ces deux propositions sur le même niveau ?
Dans ce contexte où je l'ai prononcé, oui.
Parce qu'on peut très bien faire le mal.
Bien faire le mal.
Alors, vous parlez aussi des gens qui sont malheureux. Est-ce que c'est des gens qui sont malheureux parce que, de mon point de vue, je considère qu'ils sont malheureux, ou est-ce qu'ils me l'ont dit? Je pense à Gandhi, à des gens comme ça, qui ont été considérés par beaucoup de gens comme des gens malheureux, alors qu'ils étaient bien heureux. Alors, bien à l'aise dans leur tête et oui, tout à fait en ligne avec leur volonté. C'est un problème de valeur. Et vous avez parlé de la colonie. Faire le bien chez certains, c'est aussi leur faire du mal. Et si je veux sourire un peu, je parlerai de la trilogie de Pagnol, où quand Panis est en train de mourir, on lui demande, on fait venir le curé pour le confesser, etc., même contre sa volonté, et on lui demande s'il a fait le mal. Et il dit, je ne sais pas, parce que ce que j'ai fait dans d'autres pays, c'est considéré comme du bien. Bon, est-ce qu'on ne retombe pas toujours dans cette dualité qui décide qui est quoi?
Alors, À cette question, il y a une réponse chez Simone Veil. Ce qu'elle appelle le malheur, ça n'est pas juste le chagrin. Le chagrin, c'est subjectif, c'est-à-dire que l'autre soit triste, par exemple, je peux l'imaginer, mais peut-être que lui, il n'est pas triste. Mmh. Ou il peut me le dire, à ce moment-là, je peux le croire, mais ça reste lié à sa parole. Ce qu'elle appelle le malheur, c'est quelque chose qui, où l'existence est tellement détruite que ça n'est pas que de l'ordre de l'humeur ou du sentiment, ce n'est pas que de la tristesse. Ça se traduit par une déchéance sociale. Et donc ça, c'est objectivement observable. Et aussi par une déchéance physique, souvent. Et ça aussi, c'est objectivement... Donc il y a quelque chose d'objectif dans le malheur. Quand quelqu'un vieillit d'un coup, ou qu'il est atteint par toutes sortes de maladies parce que ses conditions de vie sont incroyablement mauvaises, et qu'il perd tous les avantages sociaux qu'il pouvait avoir, il a perdu son emploi, etc. Là, on peut dire objectivement, il y a du malheur, si vous voulez. Ça ne tient plus seulement à la perception subjective qu'on peut en avoir.
Parce que comme vous l'avez dit en fin de présentation, elle-même est morte, on ne l'a pas accusée, on a dit bon, qu'elle s'était laissée mourir de faim, et elle a dit non, c'est parce que je ne pouvais pas avaler ce qu'on me donnait. Quand elle a voulu venir en France rejoindre la résistance et que le groupe de De Gaulle lui interdit parce que les dangers étaient trop forts. Bon, quand elle est morte de sa tuberculose, elle ne mangeait plus rien, et on a dit oui, mais elle s'est privée de nourriture par sentiment de révolte, alors que elle, quand on lui a posé la question, elle a dit non, je ne pouvais pas l'avaler de toute façon. Donc là, le malheur, quand vous parlez de déchéance physique, etc., est-ce que c'est le malheur qu'on se donne ou le malheur qu'on ne peut pas éviter ?
Le malheur qu'on se donne...
Qui peut être considéré comme la passion.
À l'origine du malheur, il y a vraiment un coup, comme j'ai dit tout à l'heure, du destin. Quelque chose qui me frappe certainement de l'extérieur. Et ensuite, on l'alimente, on l'entretient. Vous voyez ? Elle n'envisage pas le cas, qui à mon avis existe peu ou très rarement, de quelqu'un qui voudrait se rendre malheureux soi-même.
Se mortifier, quoi.
Comment ?
Se mortifier.
Voilà.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous. Si, sur le problème de l'alimentation de Simone Veil, si je peux ajouter quelque chose, elle pensait qu'elle ne devait pas manger plus que ce qu'avaient les Français. C'est pour ça que, mais c'est une manière un peu rationnelle, quoi, pour elle, qu'elle avait de justifier quelque chose qui était plus profond et qui était un problème, un vrai problème avec la nourriture. Et donc, ça pose la question, ne pas vouloir être un moi, d'accord ? Donc, ça amène à se négliger. Et elle se négligeait de manière, du point de vue des vêtements, du point de vue de la nourriture. Elle se négligeait et elle est morte de cette négligence. Est-ce que ça peut être une valeur morale ? Peut-être pas. Donc, voilà, on peut rester perplexe par rapport à ça. Pardon ? La même chose. Voilà. On prend les questions dans...
Oui, oui, oui.
Voilà, dans l'ordre. D'accord.
D'abord, en vous remerciant pour la clarté de votre exposé, c'est une question de néophyte. J'aimerais savoir si dans l'œuvre de Simone Veil, il existe le pendant de ce que vous nous avez exposé très clairement, sur le mal, donc sur le bien. Présence à soi, présence aux autres, ça peut prendre aussi l'attitude du bien. Et les courants philosophiques contemporains, notamment Michel Teresenko, développe cette banalité du bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe chez Simone Weil sur ces questions-là, ou parce que vous avez cité parfois le bon, le bien, mais c'est très, très faible comme engagement de Simone Weil tel que vous le décrivez. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose là-dessus?
Oui, elle parle beaucoup du bien. Elle conçoit le bien sur le modèle platonicien comme un idéal qu'on va viser. Elle n'emploierait évidemment pas l'idée de banalité du bien. L'idée de banalité du mal qu'on trouve chez Hannah Arendt, on en trouve un écho, c'est pas un écho d'ailleurs, parce qu'elle a écrit avant Simone Weil. On en trouve quelque chose chez Simone Weil quand elle parle de monotonie du mal. Mais le bien, pour elle, ne peut pas être monotone. Il est toujours lié à une conscience exaltée qui cherche à s'élever au-dessus de soi-même. C'est plutôt ce qui met une vraie aventure dans notre existence. Et donc ça s'oppose à l'idée d'une banalité. Bon, maintenant, vous dites présence à soi. Elle a beaucoup réfléchi sur l'attention. C'est une présence à la chose à laquelle on fait attention, et presque donc une absence à soi, l'attention. Mais en même temps, c'est une manière très forte, très intense d'exister. Alors, ça dépend comment on conçoit l'existence. Si on pense que exister, c'est exister comme soi, comme relation à soi-même, comme pour soi, eh bien, Simone Weil ne donne pas de la valeur à cela. Elle pense pas, par exemple, que l'introspection ou que la recherche sur sa propre histoire puisse être quelque chose de l'ordre de la valeur. Elle n'aimait pas Proust, par exemple. Elle avait horreur des surréalistes qui passent leur temps à, pensait-elle, hein, c'est une caricature, à s'occuper de leurs rêves. Mais si exister, c'est bien ce mouvement de se porter hors de soi pour faire attention aux autres et à la beauté du monde, alors oui, il est important d'intensifier notre sentiment d'exister par l'attention que nous sommes capables de porter sur le monde, sur les choses et sur les autres. Donc, voilà ce que m'évoque le mot « présence » que vous avez fort bien employé, c'est un mot fort, hein. Présence à soi, c'est-à-dire à soi comme existant dans la transcendance qui me mène vers le monde, ou présence à ma propre intériorité, présence égocentrée. Selon la manière dont on entend ce mot de présence, on a deux réponses différentes à votre question. Oui, madame.
C'est toujours dangereux de raccourcir ce qu'on a pu comprendre, mais moi, je partirais en pensant qu'effectivement, le malheur, s'il est maîtrisé jusqu'au bout, ça peut être une source de libération. Est-ce que...
Oui, je ne dirais pas maîtriser, parce que c'est de l'ordre de l'abandon.
Eh oui, alors si on s'abandonne.
Le malheur, s'il est vécu,
ouais,
éprouvé, on peut dire éprouvé jusqu'au bout, jusqu'au fond. Oui.
Ouais. Alors, ce que je trouve difficile, c'est abandonner finalement, enfin s'abandonner au malheur, c'est son propre choix. Mmh. Mais on ne peut pas abandonner l'autre dans son propre malheur, parce que la dérive, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'il peut aussi se suicider ou abréger ses souffrances autrement que dans l'attente de...
Voilà.
Oui, alors oui, là, oui. Comment faisait-elle? Elle était au contraire très à l'écoute de ces gens malheureux, mais je serais curieuse de savoir comment elle les aidait à s'abandonner à leur malheur sans leur faire prendre le risque
de la
fausse route.
Le problème que se posait Simone Veil, c'est pas comment je vais aller aider ou porter secours. Enfin, si vous voulez, elle pouvait les aider matériellement, financièrement, par exemple, le réfugié espagnol dont je vous parlais tout à l'heure. Mais elle savait bien qu'elle n'allait pas résoudre ses problèmes matériels. Je pense que c'était finalement autant pour se priver elle-même que pour résoudre le problème de l'autre. Son problème, c'était comment je vais aller partager la condition du malheureux. Quand elle va travailler en usine, elle veut partager la condition extrêmement pénible des ouvriers et des ouvrières. Et elle est plus elle-même. Alors qu'un vrai militant syndical, par exemple, il veut porter secours à ses ouvriers et ses ouvrières. Elle a été inscrite dans le mouvement syndical, mais elle était animée par une autre intention. Et finalement, elle n'a jamais vraiment cru qu'il y allait avoir une révolution qui allait permettre de libérer la classe ouvrière. Elle n'a jamais cru à l'idée de révolution. Elle ne pouvait pas être communiste, parce que le communisme, c'est une action. Il y a une anecdote où elle va à Saint-Étienne, à la Bourse du Travail, faire un cours d'économie politique. Puis il y a un ouvrier qui est là, il n'a pas tellement envie qu'on lui parle de Marx, il s'est intéressé à l'économie politique. Il dit, mais alors quand est-ce qu'on va la faire, cette révolution? Il voulait agir, quoi. Elle dit, mais plutôt que de vous poser ces questions bêtes, essayez de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire qu'elle voulait éveiller une conscience. Elle y croyait pas vraiment à la révolution. Elle n'a jamais pensé non plus que les choses allaient s'améliorer par une hausse de niveau de vie. Quand elle voyait les syndicats revendiquer pour des salaires plus importants, elle disait, mais ils sont dans le quantitatif. Et ils expriment de manière quantitative ce qui est, au fond, leur désarroi, leur misère. Ça n'intéressait pas les revendications quantitatives. D'ailleurs, elle voyait dans le mouvement des droits subjectifs, avoir plus de droits, etc., quelque chose qui n'était pas bien, on accumule des droits, alors que ce qui compte, c'est les devoirs qu'on a. C'est dans ce sens, à l'égard des autres, qu'elle en parlait. Donc, je crois que son intention, parce qu'elle peut, vous savez, comme tout le monde, elle peut dire des choses dans un texte et puis des choses un peu contraires dans un autre texte, mais quand on cherche son intention profonde, ce qui l'animait au plus profond, ce n'était pas le désir de porter secours. C'était l'idée, le désir de partager le malheur des autres. Mais ça amène quoi, de partager le malheur? C'est ça votre question. Ça avance à quoi? Et j'ai retrouvé la citation de Merleau-Ponty que je voulais vous donner tout à l'heure, qu'il exprime très bien. Ça se retrouve, ça se repère. Ah, c'est ça. À enseigner la non-violence, on consolide la violence établie, dit Merleau-Ponty. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on reste les bras croisés par rapport à un régime qui opprime, en disant, bon, ben là, je subis, je suis patient, je vais partager la condition de ceux qui sont aussi malheureux que moi. On reste les bras croisés, mais ça ne fait que renforcer les vices du régime en place. Et je vois dans cette phrase de Merleau-Ponty comme une réponse à ce qu'a d'excessif à ce qu'a d'excessive la position de Simone Veil. C'est bien cet excès que vous vouliez souligner, par.
Oui, puis on peut peut-être pas laisser abandonner quelqu'un dans sa souffrance, parce que s'abandonner à son malheur, voilà quoi, ça laisse poser des questions.
Mmh. Oui.
Après, on peut se dire, bah tiens, c'est une non-assistance à personne en danger. Ça voudrait dire qu'il faudrait laisser.
Dans les cas d'urgence, elle
oui,
ne serait pas allée jusque-là.
Oui, bien sûr. Oui, mais bon, ça rappelle les martyrs, eux qui avaient choisi. L'itinéraire des martyrs, c'est exactement cette philosophie-là. Jusqu'au bout, non? Je vous pose une question, là.
Oui, mais je réfléchis à la question que vous me posez. Puis je vous laisse aussi vous exprimer jusqu'au bout. mais peut-être qu'il était dans une situation où il ne pouvait plus se défendre, les martyrs. Ils allaient être persécutés. Ils allaient être mis à mort. Donc c'était au-delà de toute possibilité d'action. Quand on ne peut plus agir, peut-être que mourir d'une certaine manière, dans l'exaltation de la foi religieuse, c'est peut-être bien la meilleure chose qu'on puisse faire. Mais on est dans des cas extrêmes, là, où l'action devient impossible. Et dans beaucoup de cas, il reste quand même une possibilité d'action. Alors, ce n'est pas le même cas de figure. Vous voyez ?
Merci. Alors, pour ce qui est à propos de la dernière question, il me semble que je partirais en me disant que Simone Veil, elle nous dit « réfléchissez ». Parce que pour ce qui est de la non-violence, il semblerait quand même que Gandhi a réussi à libérer l'Inde avec un principe de base de non-violence. Bon, c'est pas quand même pas rien de se débarrasser des Anglais. Bon, c'est mon avis. Bon. Alors, mais là aussi, il faut réfléchir. Vous n'allez pas nous donner une recette pour quand on va partir.
Ah non.
Je me fais pas d'illusions. Alors, il y avait une autre. Je parle pas assez, oui. Alors, il y a une autre.
Ce serait, si je vous donnais une recette, ce serait un simulacre de bonne conférence.
Absolument. Ça, c'est. Bon, c'est ce qui est. Alors, là aussi, il me semble que j'ai lu, mais bon, sous réserve, parce qu'on a le droit à l'erreur. Moi, je réclame le droit à l'erreur. Krishnamurti dit que la seule manière d'exister vraiment, c'est de porter attention. Voilà. Alors, bon, à réfléchir encore.
Oui, ça, c'est dans l'esprit de Simone Veil.
Krishnamurti, portez attention. Oui. Et donc, c'est ce que vous disiez à un moment pour Simone Veil. Alors, la dernière question, qui était ma première, mais il y en a deux qui se sont ajoutées. Vous disiez au début que Simone Veil s'est toujours sentie inférieure à son frère et qu'elle était, pas hostile, mais enfin indifférente à la psychanalyse. Est-ce que quelqu'un a travaillé à ce sujet? Parce que sa fin et même une grande partie de son comportement, en particulier son anorexie, tendrait à penser qu'elle tentait de disparaître par rapport à ce frère qui lui faisait de l'ombre.
Alors, il y a des psychiatres qui ont écrit sur l'anorexie de Simone Veil. Comme il y a des psychiatres qui ont pu écrire sur Nietzsche. Mais ce n'est pas des livres que je conseillerais personnellement. Parce que le psychiatre est souvent allé beaucoup moins loin dans son évolution spirituelle que l'objet qu'il étudie, en l'occurrence Simone Veil ou Nietzsche. Et donc, il ramène souvent ça à des banalités. En revanche, votre question est légitime. Peut-être que, mais pas besoin d'être psychiatre pour le dire, le grand malheur de la vie de Simone Veil, c'est d'avoir été écrasé par son frère, sans qu'il le veuille, évidemment. Voilà. De s'être senti indigne d'être aimé. Et à tel point qu'elle n'a jamais pu dire à quelqu'un qu'elle l'aimait. alors, parce qu'elle se sentait trop indigne elle-même de pouvoir attendre d'être aimée. Et que là, il y a certainement quelque chose qui est de l'ordre du malheur. Mais alors, est-ce que c'est ça qui va lui donner le sentiment qu'elle n'a pas de valeur, ou c'est parce qu'elle voulait ne pas avoir de valeur qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'amour de quelqu'un? Ça marche sans doute dans les deux sens après. Est-ce que je n'ai pas bien répondu à votre question?
Non, c'est ce que je pense.
Voilà. Et elle a exprimé cela, non pas d'une manière autobiographique en parlant d'elle, mais elle a essayé d'en faire un moteur pour penser beaucoup plus large. Vous voyez, c'est ça qui fait un philosophe, c'est que à partir de choses qui sont les siennes peut-être au départ, il peut penser des situations très différentes de celle qu'il a connue, en donnant une certaine ampleur à son propos.
Juste revenir sur la question de la place que Simone Veil pouvait donner ou pas à l'amour de soi. Donc là, on a parlé de l'attention à soi-même, mais l'amour de soi. Donc, non pas l'amour propre, mais l'amour de soi.
Alors, mais c'est quoi ce soi?
Alors,
non,
voilà,
mais parce qu'on, justement, on peut dialoguer, c'est rigolo aussi.
C'est Socratique, là, je ne parle pas du moi de Pascal qui est haïssable et qui se gonfle de toute son importance, mais ce qui fait qu'il y a une personne, c'est quand même en même temps qu'il y a, il y a quelqu'un, il y a un soi. Donc, comment peut-on donner de l'amour sans s'aimer soi-même en même temps?
Est-ce que ce soi, c'est de l'ordre de la personne?
C'est de l'ordre de la personne, oui, c'est au sens, le soi au sens de la personne.
Alors,
pas
là,
le
y a
soi
pas
au sens du moi qui est haïssable. C'est,
d'accord. Voilà. Eh bien, elle a répondu elle-même dans des textes qu'elle a écrits à Londres lorsqu'elle s'en prend à Emmanuel Mounier, qui est le penseur du personnalisme, hein, le grand philosophe catholique qui a fondé ce mouvement, le personnalisme. Et Mounier pensait que la personne a du prix. Il pensait même que ce qui fait l'apport vraiment du christianisme, c'est de donner de la valeur à chaque personne. Parce que, après tout, chaque personne est voulue par la volonté de Dieu qui la crée, et qu'une créature divine ne peut pas être mauvaise. Bon, alors ça a fondé une forme d'humanisme. Et Mounier fait très bien la différence entre la personne qui est un sujet moral, qui s'intéresse aux autres, qui s'engage, qui travaille pour l'universel, puis le petit égo, l'individu fermé sur soi. Et donc, ça correspond à la différence que tu fais entre le petit moi, celui de l'amour propre, et le soi, qui signifierait la personne. Et Simone Veil dit non, la personne n'a pas de valeur. C'est sa réponse. Ce qui a de la valeur, c'est l'impersonnel. C'est-à-dire, c'est ce qui passe à travers moi, par la grâce. Par exemple, quand un discours ou un écrit est véritablement inspiré, peu importe de la bouche, peu importe la bouche qui le prononce, peu importe de savoir qui est celui-là qui parle, il n'a pas de valeur en tant que personne, celui qui parle. C'est le mouvement de la vérité qui passe par celui-là pour s'adresser aux autres qui compte. Ça, c'est l'impersonnel. Simone Veil n'est pas une philosophe de l'universel. Le colloque sur Simone Veil qui a eu lieu là à Lyon, à l'Université catholique, et à Lyon 3, il y a au mois de novembre, C'était Simone Veil, l'universel et la pensée de l'universel. J'ai fait remarquer, et puis Emmanuel Gabellieri, qui est un spécialiste de Simone Veil, l'a admis, que ce qui est le c'est pas le concept d'universel qui est veilien, c'est vraiment le concept d'impersonnel ou du transpersonnel. Un bel acte, c'est quelque chose qui m'échappe. Parce que c'est pas moi tout seul, je ne pouvais pas arriver à donner, par exemple. Je ne suis pas assez fort moi-même pour arriver à me défaire d'une partie de ma nourriture, surtout lorsque j'en ai besoin, qu'on est en temps de disette, pour le donner à l'autre. Eh bien, si je le fais quand même, c'est que ça m'a échappé. Je ne sais pas si vous avez l'expérience, sans doute tous, un acte qui nous échappe à un moment. On dit, ah, mais je n'aurais pas cru être capable de faire ça. Ou d'un acte, ou d'une parole que l'on dit, mais on ne croyait pas qu'on pensait ça, mais quand on l'a dit, on a senti que c'était tout à fait ce qu'il fallait dire à ce moment-là, à cette personne-là, que c'était juste. Ce n'est pas quelque chose, d'imaginaire, ce dont on parle. On doit bien avoir tous une expérience. Et donc, à ce moment-là, on est dans ce qu'elle appelle l'impersonnel. Mais ça fait comme trou dans la personne, si je puis dire. La personne le laisse échapper, cet acte ou cette parole, sans qu'elle l'ait contrôlé. Donc, ce qui a de la valeur, c'est l'impersonnel. Donc, tout ce que développera, par exemple, Ricoeur, on peut parler un peu de Ricoeur, on est près du Chambon où il a donc enseigné, je ne sais pas bien d'ailleurs, si quelqu'un peut me dire ça tout à l'heure, s'il a enseigné, quelle année il a enseigné Ricoeur?
Après avoir été prisonnier en Allemagne pendant 5 ans, il a cherché un endroit pour enseigner, où il puisse se reconstruire. Et il a trouvé cet endroit grâce à des Quakers américains. Ils ont dit, mais attendez, sur le plateau, là-haut, au fin fond de la Haute-Loire, il y a une école nouvelle Sévenol qui se crée. Donc on était fin 45 jusqu'en 47. Donc il a enseigné aux classes de terminale de ce qu'on appelle aujourd'hui le collège Sévenol.
Deux années scolaires.
Oui. Mais il est revenu moult fois pour travailler avec les enseignants sur le projet pédagogique, sur l'orientation qu'on devait donner autour de l'éducation. Il a jamais coupé les ponts avec cet établissement-là.
Bon. Il faudrait vraiment faire quelque chose sur Ricoeur par ici. Ça a sans doute déjà été fait, mais enfin, il faut toujours refaire pour que ça reste dans les mémoires. Et donc, quand Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, développe cette idée de l'estime de soi, et qui est bien dans l'air du temps, hein, c'est pas du tout l'esprit de Simone Veil. Ça, c'est très différent. Pour elle, c'est vraiment c'est toujours son concept clé, c'est le concept de décréation. Elle pense que les saints peuvent, parce qu'ils sont suffisamment habités par Dieu, mais là encore, c'est pas grâce à leur propre force, hein. C'est parce qu'ils sont suffisamment habités par Dieu, ils peuvent volontairement renoncer à tous leurs biens. Par exemple, Saint François d'Assise, qui renonce à toute sa fortune et qui, pour mener une vie nue, mais que la plupart des hommes ne peuvent pas faire ça et que c'est le malheur qui leur prend les choses auxquelles ils n'auraient pas pu renoncer par eux-mêmes, qui les dépouillent. Et les circonstances de la vie, et que c'est une chance alors à ce moment-là qui leur est donnée de pouvoir faire malgré eux quelque chose qu'ils auraient dû faire volontairement mais qu'ils ne pouvaient pas faire volontairement. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'il y a un moment décréation de la personne, dépersonnalisation.
Je ne sais pas si vous avez une...
Alors oui, Simone Veil a de très belles formules sur la joie. Elle est justement le sentiment que l'on éprouve dans le dénuement. Je ne sais pas. Si vous voulez, tout dépend du choix de vocabulaire que l'on fait, mais pour elle, elle appelle ça joie, elle n'appelle pas ça bonheur. Parce que c'est au fond du malheur qu'il y a une graine de joie, si je puis dire, qui peut germer, plus ou moins.
On va prendre une dernière question.
Une dernière question.
On continuera, bien sûr.
D'accord.
Merci. Ne pensez-vous pas qu'elle était tout simplement masochiste et masochiste chrétienne ?
Il est quand même bien péjoratif, ce mot de masochiste. Son origine, avant la psychanalyse, ça ne convient pas bien à Simone Veil, et il est trop médical quand même. Mais ceci dit, vous avez raison de vous poser cette question. Elle se pose. Hein, jusqu'à quel point... Alors, on parle de dolorisme quelquefois. C'est un peu atténué. Elle s'en défend en disant... Il faut comprendre aussi que Simone Veil était dans une souffrance permanente à cause de certains maux de tête, une santé extrêmement... Elle était précaire, elle était cassée physiquement. Donc, elle n'avait pas besoin de vouloir se faire mal, elle avait mal. Ensuite, sa question, c'était... est-ce que je peux trouver un sens spirituel à ce qui, moi, m'est donné, à savoir que je ne peux vivre que dans la souffrance et dans la douleur. Donc, elle a essayé de... Joie, une certaine joie à trouver dans la douleur quelque chose qui est une réconciliation avec la perfection de Dieu et de la création de Dieu, c'est-à-dire du monde. Quand malgré sa douleur, on arrive à se réconcilier avec le monde, il y a de la joie, c'est beaucoup plus que le plaisir. Elle aurait été méchante. Elle s'en serait pris aux autres. Si on suit ça... Elle était trop anticléricale. C'est le problème. Je crois que c'est le moment de nous séparer ou de nous déplacer, c'est ça ?